Alors, ce matin, nous recevons deux invités. Ils viennent nous parler d'un beau projet qui s'appelle Oscuratronics. Je ne traduis pas, c'est bien. Pensé comme une exploration depuis l'obscurité entre un instrument et son double. Ce concert du 17 novembre sera consacré à la voix intérieure et contemplative du compositeur américain Morton Feldman. Pour le 30e anniversaire de sa mort, revisité par Michael Lieberg, dont une pièce vient d'être créée aux Beaux-Arts par les ensembles Ictus et Club Médiéval. Jean-Pierre Vranken, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien programmateur du Botanique et organisé...
Un des anciens.
Et organisé désormais les Nuits du Bota, un festival alternatif.
Oui, c'est un festival qui a lieu en général en mai, mais là on se permet de faire des petites soirées avant pour
c'est une mise en bouche, c'est voilà, un teaser, très bien.
En avant programme du mois de mai.
Michael Lieberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes compositeur, dramaturge sonore et interprète passionné de musiques anciennes.
Oui, absolument. Oui.
Alors pour commencer, je me permettrai une petite curiosité, alors que vous citez en ouverture de votre dossier presse Claude Régis.
Oui.
Et qui est, je le rappelle pour les auditeurs, un metteur en scène français qui a largement contribué au renouvellement du jeu de l'acteur et de l'esthétique du théâtre contemporain. Vous dites, je cite, « L'obscurité est notre domaine et le trouble est la confusion ». Ce qui, moi, m'a fait penser à Dali, oui, qui disait... dans les années 30, qui serait de bon ton de systématiser la confusion. Est-ce que vous faites un lien entre ces deux choses-là ?
Avec Dali, pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, c'est-à-dire que pour moi, le travail dans l'obscurité, en tout cas la question de la confusion, c'est plus un endroit qui sert aussi aujourd'hui dans l'époque du maintenant, en fait, sert aussi de refuge, c'est-à-dire que c'est un endroit où on n'a pas forcément des choses toutes tracées, dogmatiques, on y retrouve peut-être un matériel plus organique, moins certain.
Parce qu'il y aurait moins de repères, donc ça veut dire que tout serait potentiellement possible, créable,
voilà,
réinventable.
C'est ça.
On pourrait faire table rase du vocabulaire et réécrire.
Il y a presque un lieu politique, en fait, dans cet endroit-là. C'est-à-dire,
d'accord,
c'est se retrouver et retrouver peut-être collectivement la capacité de se perdre. Et parce que peut-être pour retrouver certains chemins, il faut peut-être passer par l'idée de s'y perdre, que si tout est tracé d'avance, on peut dire comme sur certains murs, sur certains graffitis, on peut dire presque alors que l'avenir est annulé.
Ah, c'est beau l'avenir, l'avenir est annulé, c'est fini. Et du coup, justement, tu évoques la question du double. Mmh. Et comment l'incarnes-tu scéniquement et quel est l'espace du double et quelle est son origine dans ta pratique ?
Alors, concrètement dans le concert, je travaille sur l'idée que je travaille avec un instrument qui est un instrument un peu particulier, un peu rare. C'est une hybridation d'un instrument qui est apparu à la fin du Moyen-Âge, qu'on appelle un sistre. Et un sistre est un instrument donc à cordes pincées, on pinçait les cordes, et la transformation s'est opérée que avec un ami luthier, on a conçu un instrument qui était un instrument à cordes frottées. Et donc il y a une sonorité très différente et très singulière, parce que, pour des tas de raisons différentes, c'est un instrument qui est aussi dans une certaine forme de confusion, c'est-à-dire que la singularité de son son, de sa sonorité, fait que c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement archaïque et à la fois extrêmement présent, extrêmement tendu vers l'Orient ou extrêmement tendu vers l'Occident, vers l'improvisation libre. Et donc déjà là, il y a une double dimension. Et puis, dans cette double dimension, c'est toujours des principes de bois de gigogne, il y a une deuxième dimension, qui est la dimension électronique. C'est-à-dire que je récupère, en fait, le son de l'instrument.
Et tu samples?
Que je, voilà, j'applique un système de loop, de boucle, donc qui est assez commun aujourd'hui dans la musique expérimentale, mais en partant de l'imaginaire de ce qu'avaient imaginé Brian Eno et Robert Fripp dans les années 70, ce qu'on va appeler après les frippertronics, c'est-à-dire en fait une boucle qui est vraiment en fait une espèce de circularité physique entre deux vieux magnétophones Revox et en fait une bande magnétique qui court et qui est une boucle fermée. Donc en fait, ça crée des espaces en fait de répétition qui m'amène moi toujours dans ce questionnement plus profond sur la question de la cyclicité et de la circularité. On pourrait remonter jusqu'à Goethe et jusqu'à la poésie de Goethe.
Oui, et en même temps, les choses se répètent et elles ne sont jamais exactement les mêmes.
Exactement.
Ça joue toujours un déplacement et un espace entre une respiration.
C'est pour ça qu'on peut aussi parler de dimension spirale. C'est-à-dire que la dimension spirale, c'est toujours une forme circulaire, mais qui repasse toujours par une espèce de point nodal, mais qui n'est jamais le même, en fait.
Oui.
Et la spirale, elle peut être dans un sens ou dans l'autre.
Et comment ta spirale t'a dirigée vers Morton Feldman? Quel a été le lien entre vous?
C'est Pierre-Jean, déjà.
Pierre-Jean.
Oui, c'est un peu à ma demande, effectivement, parce que Michael a déjà joué une pièce de Morton Feldman en mai dernier, qui l'avait traité de cette manière-là. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait pas appliquer ça à d'autres pièces de Morton Feldman? Et voilà, Michael
emparé du projet et à proposer une forme aussi.
Oui, mais j'ai accepté la proposition de Pierre-Jean. Mmh. C'est vrai que c'est un compositeur que j'aime beaucoup.
Moi aussi d'ailleurs, hein, c'est un peu ce qui nous relie.
Et c'est vrai que dans mes recherches et dans des fois des concerts que je peux proposer, j'essaie de faire de tracer des paysages entre à la fois des choses qui sont très anciennes. Je suis beaucoup tendu vers la musique du Moyen-Âge, notamment, vers la monodie, donc vers les mélodies, des troubadours, des trouvères, toute la dimension poétique qu'il y a aussi surtout chez les troubadours.
Et qui a transmission aussi des histoires par l'oralité à une époque où les gens ne savaient ni lire ni écrire.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, de toujours tracer des parallèles, en fait, avec le XXe siècle, et là je vais plutôt c'est des trajectoires temporelles dans le passé et le présent et géographiques, c'est-à-dire que des fois je peux aller s'y tendre vers l'Orient et puis des fois tendre vers l'Occident, voire l'extrême Occident, du côté des Amériques avec John Cage, Morton Feldman. Et oui, j'ai pris j'ai accepté l'invitation de travailler autour de Morton Feldman en le greffant avec ce principe des oscuratronics. Et voilà, et donc demain soir je vais venir avec quelques nouvelles explorations.
Et alors d'autant plus aussi que Morton Feldman a un côté aussi minimaliste, qu'on peut percevoir dans ces pièces très longues qui dure parfois 4 heures, 4-5 heures. Hein. C'est, oui. Même si la répétition n'est pas la même que dans la musique de Philip Glass ou Steve Reich.
C'est
un minimalisme plus...
Ça permet des espaces de contemplation, peut-être, des espaces de voyage, de rêverie, dans lesquels on est pleinement dans la musique, on part dans ses propres contemplations, on revient, ça permet beaucoup d'aller-retour.
Plus que la répétition, pour moi, c'est pas tellement une question de répétition chez Feldman, justement, c'est plutôt l'infinie variation sur un temps qui ramène aussi des fois sur les questions d'horizontalité. De temps et d'expérience du temps absolument multiples et simultanées, c'est-à-dire à la fois des temps qui sont horizontaux en même temps que cycliques. Alors c'est on va dire, c'est compliqué parce que ça amène à la question du temps, et c'est toujours très compliqué de parler du temps, mais c'est une musique qui fait faire une qui fait vivre une expérience du temps. Et d'une expérience du temps, le temps se traverse toujours de différentes manières. Si on peut parler du temps physique, qui est peut-être l'endroit où on peut essayer de tenter de parler du temps, mais après il y a aussi des temporalités psychologiques,
sensorielles,
voilà. Et Martin Feldman, je crois, son travail l'a amené à ça, et lui était très attaché à l'Orient. Il était absolument fasciné, notamment par les kilims, les tapis. Les tapis d'Orient, puisque en fait, les diamants en Orient, c'était beaucoup les tapis, l'artisanat et tous les motifs qu'il y avait sur les tapis. Et il s'est énormément inspiré en fait des motifs, ce qu'on appelle des patterns en anglais. Et aussi, du coup, son rapport à la musique était aussi très lié à la peinture et à la géométrie. Il a toujours composé des pièces en référence à des amis peintres qui avaient été des grandes figures de l'expressionnisme abstrait aux États-Unis, donc de Kooning, Rothko.
Et toi, quelles sont les figures artistiques qui inspirent ta pratique et tes compositions avec ce bel instrument dont nous parlions tout à l'heure, le sistre?
Elles sont extrêmement multiples, variables, avec des retours d'intensité sur certains trajets.
C'est un peu difficile à 8h35.
C'est un peu difficile à 8h35 parce qu'il y a tellement de choses.
Et nous parlions du temps tout à l'heure, et je me demandais quel était le rapport à la partition que tu entretenais et le rapport à l'improvisation. Parce que l'improvisation, justement, il me semble, n'étant pas musicienne, mais qu'elle permet d'élargir les notes ou de revenir sur des moments, et que la temporalité, la musicalité se modifie.
Alors, je crois que c'est pas tellement une question d'être dans un rapport d'avoir une partition et d'être dans l'improvisation. Je pense que c'est aussi une question que pour l'interprète, je crois qu'à un moment il y a des états, on va dire, de concentration qui fait que la notion du temps devient très abstraite à un moment, parce qu'en fait on plonge littéralement dans la texture de la musique. Et donc, en fait, on en vient à s'oublier soi-même, en fait, à oublier un peu les couches psychiques supérieures, l'ego, le moi, et on arrive dans cet endroit qui est un endroit beaucoup plus profond, et c'est pas du tout mystique, c'est vraiment une drôle d'expérience où finalement le temps devient quelque chose d'extrêmement relatif, où on peut même être dans des superpositions d'expériences du temps, etc. Et c'est toujours intéressant de tendre vers ça, mais c'est comme le temps lui-même dans son expérience, dès qu'on essaye d'aller vers ça, dès qu'on est dans la volonté d'aller vers ça,
ça se
s'enfuit.
Ouais, c'est ça.
Et puis quand on n'y pense plus et qu'on est dans le lâcher prise, et
l'abandon permet que ça revienne, absolument. Et Pierre-Jean, comment se nouent les projets au BOTA? Avec
au BOTA, donc BEAUTAS. Hein.
C'est ça. Le BOTA. Et donc, quels artistes sont à suivre? Il me semble qu'il y a Antoine Bout.
Oui, donc ça, ce sera le 24 novembre, dans le même espace, qui est la galerie E carré Serput, hein, qui est un super lieu, donc près du KVS, la rue du Pont-Neuf, et qui fait des tas de choses, donc ça c'est à préciser aussi. Et donc la date suivante, ce sera 24 novembre, où on aura Antoine Bout dans une performance vocale bio-hardcore.
Absolument, Antoine Bout est un poète performeur qui travaille notamment exactement sur la forme bio-hardcore qu'il performe avec corps et voix et énergie.
C'est Tout à fait, il a
il est publié chez Maestro
Musicien. Cette énergie qui est très particulière et assez ludique et en même temps sérieuse aussi, malgré tout.
Mais on peut avoir du fond en ayant une expressivité complètement...
Iconoclaste.
Iconoclaste. je cherchais le bon qualificatif et je crois que c'est ça, iconoclaste.
Ah, d'ailleurs, c'est un peu l'emblème du Festival des Nuits du Botha. C'est un, je le qualifie de festival alternatif et iconoclaste. C'est un peu le...
C'est le label.
Le label, oui.
Très bien.
D'ailleurs, c'est forcément le cas puisque... Je me moque un peu du botanique.
C'est un clin d'œil voilà. Sur des anecdotes passées.
Voilà.
C'est ça.
C'est un pied de nez comme ça.
C'est un pied de nez. les gens concernés comprendront. C'est une private joke, pas si private. C'est non. Ça. Messieurs, quelque chose à ajouter sur ce concert qui aura lieu demain, je le rappelle, à la Galerie au Carré pour l'avant-première. Des Nuits du Botha, ça commence à 19h30 et ça se passe rue du Pont-Neuf à Bruxelles.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise aux autres?
Alors, vouloir, ça n'est pas la question, mais en tout cas, si vous désirez ajouter une petite note de conclusion.
Et donc, ouais, moi je voulais dire aussi que c'était donc, une mise en bouche effectivement au prochain festival. Des Nuits du Botha, dont le thème sera Vox Pop.
Vox Pop.
Et donc l'idée donc, de faire une programmation autour de la voix, mais dans toutes ses dimensions, autant musicale, politique, philosophique.
On va chanter, parler, performer,
oui, voilà,
fredonner.
Bon, et donc ces deux soirées-là sont effectivement un peu en avant-première de cette... de cette programmation et je crois que il faut
y
venir,
aller absolument
venir, voilà,
jeter une oreille curieuse
soit pour découvrir ou confirmer ou être confirmé dans l'intérêt qu'on a pour ce genre de programmation quand même
un peu décalé. Absolument. Hein. Mais la Galerie au Carré propose un panel d'expositions, de concerts qui sont toujours plus baroques, je dirais, les uns que les autres. Et on peut y trouver beaucoup de plaisir.
Et on remercie d'ailleurs la Galerie au Carré, Sterput,
pour leur
accueil. Nous accueillir. Ouais,
merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Bonne matinée. À bientôt.